Officer is the director of the School of Urban Planning at McGill University. Rafael's research focuses on questions of metropolitan development and governance, physical planning and project development, neighborhood planning and university community partnerships, planning history and planning theory. Sa présentation s'intitule Participation du public entre expertise et populisme. Parole à Raphaël.
Bonjour. Alors, je vais essayer de parler en anglais et en français, pas en même temps, mais tour à tour. I'd like to do three things in this talk. First, I'd like to use this talk to try and take stock a little bit of the theory of public participation by trying to look at what key factors are that. What are the key factors we need to think about when we talk about citizen participation? That would be the theory section. Then I'd like to try and spell out a little bit my personal view about the condition of citizen participation in Montreal. So that's the opinion piece. And then finally, I'd like to, because we're in a colloquium that is the launch of a new research center, I'd like to list perhaps a few research projects that we may want to undertake as a group on citizen participation in Montreal. La question qui se pose quand on parle de participation du public est la suivante, c'est dans quelle mesure et de quelle manière les citoyens doivent-ils participer à la prise de décision publique. In English, to what extent and in what ways should citizens be involved in public decision-making. Et la réponse qu'on donne à cette question, évidemment, elle dépend de nos conceptions fondamentales au sujet, d'une part, de la démocratie, qu'est-ce que la démocratie, et d'autre part, de nos conceptions du lien qui existe entre l'action et la connaissance. Et j'aimerais parler de ces deux sujets. Pour introduire ces deux sujets, je voudrais parler très brièvement de la controverse qui nous préoccupe tous en ce moment sur la Charte des valeurs québécoises. On sait que le ministre de la Métropole, Jean-François Lisée, a dit aux candidats à la mairie qu'il ne leur revenait pas de se prononcer sur cet enjeu de société. Je trouve que c'est très important de noter cet argument parce qu'il veut dire que la démocratie municipale n'est pas vraiment la démocratie. Il veut dire qu'une ville, une municipalité, n'est pas une entité politique, à proprement parler, que sa vie politique n'a pas le même statut que celle d'une province ou d'un pays. Ça nous permet de nous interroger, évidemment, sur ce que nous devrions faire, nous qui nous soucions de la qualité de la démocratie à Montréal, ça nous interpelle. Si la municipalité est en effet, comme le dit la loi d'une certaine manière, une corporation municipale dont le but principal est de fournir des services à ses citoyens, il est vrai que notre notion de démocratie peut être revue à la baisse et que, comme dans toute corporation, il s'agit de savoir comment les dirigeants, qui dans notre cas sont élus, c'est vrai, nos CEO et nos Chief Financial Officers, etc., comment devraient interagir avec les actionnaires, qui sont les propriétaires fonciers, qui payent des taxes, interagir avec les employés, et puis avec les clients, c'est vrai qu'on a des clients qui ont fourni des services qui peuvent être plus contents ou moins contents. Évidemment, ce n'est pas de ça qu'on parle quand on parle de démocratie participative, on parle de démocratie réelle, sérieuse, politique. C'est-à-dire qu'on parle d'une entité, d'une police, au sens grec, pas police avec CE, mais avec S à la fin, où nous faisons des choix de société. Et c'est de ça qu'il s'agit, en fait, quand on parle de démocratie participative, c'est qui a le droit de faire ses choix de société. Il ne s'agit pas de dire qui a le droit de décider si le ramassage des ordures se fera deux fois par semaine. Je pense pas que ce soit l'enjeu, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ce n'est pas l'enjeu, en effet. Alors, il y a évidemment des conceptions très différentes de la démocratie, même si on accepte qu'une municipalité, c'est une entité politique. on peut dire encore, écoutez, oui, c'est vrai, c'est une démocratie, mais nous avons un système de démocratie représentative. Nous élisons des élus régulièrement qui fassent leur travail, qui prennent leurs décisions. Si nous ne sommes pas d'accord avec eux, on les renvoie au bout de quelques années. À la rigueur, on va manifester dans les rues, mais en général, on voit très bien ce qui se passe. Les gens qui s'intéressent à la démocratie participative s'intéressent bien sûr à une notion de démocratie directe ou forte, strong democracy, où il s'agit d'impliquer le citoyen de manière régulière, permanente, quasi quotidienne, dans la prise de décision sur des enjeux qui se posent. Il s'agit même de plus que ça, il s'agit d'impliquer le citoyen dans la définition des enjeux et dans la définition des objectifs et des orientations que nous devrons suivre. Or, la recherche sur la participation du public, en tout cas au niveau de l'urbanisme et de l'aménagement, tente à démontrer, et cela depuis les années 60, par les enquêtes de Alan Altshuler et d'autres gens comme ça, des sociologues de l'urbanisme, de la planification, que le public, en général, n'a pas tendance à s'impliquer, à moins que le danger, la menace, les enjeux soient très réels, très concrets, et les touche personnellement. Qu'il n'est pas facile d'impliquer les citoyens justement dans ces questions de long terme, dans où la définition des enjeux, la définition des problèmes est très importante, de les impliquer, de leur demander de venir un soir quand il pleut ou quand il neige, de quitter leur foyer et de se mettre dans une salle bondée ou vide même, pour parler du long terme, pour parler de choses assez abstraites. Ça ne marche pas toujours. Mais essayez de mettre une nouvelle rue ou un nouveau bar dans un quartier, vous aurez du monde qui sortira. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que même quand une ville essaye d'impliquer les citoyens dans des processus participatifs qui touchent sur le long terme, sur la vision, sur les orientations d'un plan d'urbanisme, d'un plan d'aménagement, les résultats obtenus ne sont pas toujours très intéressants. Comme disent les Américains, c'est « motherhood and apple pie », c'est que tout le monde, en effet, veut une belle ville avec de beaux quartiers, avec des transports efficaces, avec des choses sur lesquelles on s'entend. C'est vraiment, disons, un dénominateur commun qu'on obtient. Ce ne sont pas des processus qui sont très créatifs, pour revenir au thème de la journée. Il y a des tentatives pour essayer de trouver un juste moyen entre la participation citoyenne de réaction à des projets, d'une part, et la participation des citoyens à des énoncés de vision. Et ce terrain en milieu de ces deux extrêmes, au milieu de ces deux extrêmes, c'est celui de la planification du quartier ou du secteur, où on a en effet à Montréal, dans d'autres villes, des processus très intéressants sur lesquels Hoy et d'autres gens travaillent, comment impliquer les citoyens dans justement la planification de leur quartier. Parce qu'ils perçoivent bien les enjeux, ils se sentent impliqués et donc ils sont prêts à en effet à participer. Je pense qu'à ce titre, à Montréal et dans d'autres villes, on a... une grande chance, c'est qu'au cours du XXe siècle est née dans les grandes villes une société civile extrêmement active qui est faite d'organismes communautaires, d'organismes à but non lucratif, de fondations, etc., qui jouent un rôle très important. Et je vais mettre l'accent là-dessus dans ma présentation. Je pense qu'à Montréal, la participation du public se fait en grande partie, et alors, qu'est-ce que ça veut dire grande partie? Je n'ai pas de chiffres à vous donner, ça sera dans mes recommandations de recherche, justement, se fait en grande partie par l'entremise de ces organismes. Alors, on parle de vivre en ville, du CCA, on parle de transport 2000, on parle du FRAPRU, on parle de toutes sortes de gens qui s'immiscent et qui mobilisent les citoyens et qui... ont surtout le grand avantage, et ça m'amène à mon deuxième point, qui ont l'avantage d'avoir une certaine expertise, d'avoir développé au fil du temps une expertise dans un certain domaine et qui ne s'exprime pas seulement comme citoyen qui a un intérêt particulier. So, if the first factor in How we think about citizen participation is how we conceive of democracy and of the constitution of society, of the forces at play. The other factor is how we conceive of the link between knowledge and action. What is the role of knowledge in decision making? Who has knowledge? Who has the right knowledge? Who can bring it to the table? How can it be? How can various opinions about things be mediated? Knowledge is, of course, not just facts. It's also values. It's a perspective on things. It's a different definition of issues, and so on and so forth. Of course, we have here again a spectrum of opinions. On the one hand, we have people who believe that there is such a thing as expertise, that it is extremely valuable, that it is needed, that experts know what they're talking about, that they are very important elements in this whole process, and that citizens, they may be nice, they may be interested, they may be involved, but they actually don't possess all the knowledge that is needed. On the other hand, at the other end of the spectrum, there is the feeling that experts know a lot about nothing, and that the citizens are the ones who know their city, know it intimately, have the formal, perhaps less, but tacit knowledge that is needed to actually make good decisions. As Jane Jacobs would say, it's not just the planners who have plans, everyone has plans, and everyone's plans should be at the table when we discuss the future of a city or a neighborhood. I think our attitude towards experts has shifted over time. Obviously, the realm of technocracy is over to a certain extent, although it's very powerful in others. The recognition of the inherent complexity of urban phenomena, we've heard about that. Urban phenomena, natural phenomena, are extremely complex, more than we ever believe they are or agree that they are. And that complexity has a paradoxical result. On the one hand, it means that expertise is not as valuable as we thought it was, given that experts can't know everything. On the other hand, it calls for greater expertise to have more knowledge about the more complex phenomena that we're seeing. I think the other thing that's been happening to undermine the realm of the expert is the recognition of the fundamental diversity of society. And I think here in Montreal we have a problem with that, because we are not sure exactly what that diversity is, how to value it, what to do with it. We have different opinions about whether or not we are a diverse society, or we should be one, or should remain one, or should try and remove difference. The more a society is diverse, the harder it is to apply objective expertise to a problem, because the more you'll have disagreement about whether the problem is a problem and what that problem may be, and the more you'll have disagreement about the values that you have to bring to bear on the solution to the problem. And there, you don't need factual expertise. You need a new kind of expertise. You need an expertise of difference, an expertise of the management of difference. And you have, indeed, in collective decision-making processes, now a new specialty, and that is the management of diversity, the management of deliberative democracy, the management of processes where different people come to grips with a problem. So there's been progress in that, and there's something else that's been very interesting in terms of that, and I've mentioned it before, and that is the location of expertise. That's the third phenomenon with respect to expertise, is the location of expertise outside of traditional locations where it used to be. Expertise used to be in the state and in private consulting firms. And we have a growing expertise in civil society, which is very refreshing, which is very interesting. We have expertise in the university, so I don't know where you place the university. I think we have the good fortune in Montreal that many of our university people put their expertise at the service of civil society and not just at the service of the state or of corporations. It's a very healthy phenomenon, but it's an interesting landscape, and I'll come back to that in my recommendations. What do I think about citizen participation in Montreal? You know, I think we've had, of course, We've come a long way, and I think there are many positive things that can be said about Montreal. Of course, the case of is the glass half full or is it half empty? I think aside from the fact that we have had an executive committee meeting behind closed doors for many, many years, which is a scandal, we've had a fairly well-functioning democracy. But of course, now we know that underneath it, in terms of financing, all kinds of things have happened. We have elections. We live in a democracy. We can vote. We're going to vote very soon. We have different candidates with different platforms. There is turnover. Maybe the quality of our elected officials is not always what we want it to be, but there are people who spend a lot of time and effort to try and work for the public good in the city. Second, we have all kinds of mechanisms in this city, some of which are well-known, some of which are not well-known, that actually enable citizens to participate in decision-making. I want to mention first the formal ones. We have all kinds of commissions and committees that advise the city elected officials and that represent the public. Now, we can talk, are they really representative or not? If you talk about a borough and its Comité Consultatif d'Urbanisme, its CCU, its advisory board on planning issues, you can argue who are these people, how were they selected, and so on. But the fact is that the public is represented. It's not just the professionals and the developers who call the shots. Yes, committees have only an advisory function in most cases, but I wouldn't poo-poo that. I think it's valuable. But we need to do research about whether or not they're effective and how they work. I think we also have, what's interesting, more and more engagement of citizen groups in planning processes. They force their way into them, they demand it, they request it. Second, the professionals, I think, thanks to a generational change, are more involved, interested in citizen participation. Their training or just the fact that they're young and they were born in the 80s and 70s when citizen participation was much more of a thing than before. Planners, I think, are more interested. They reach out more. We can say they can reach out more, that's true, but they've started doing interesting things. They've started bringing community groups together to do neighborhood planning, whether at the local level or even under a provincial program called Planification de Revitalisation Intégrée, where you have community groups together with local planners who work on neighborhood planning issues. We are doing design charrettes, a design exercise. We bring residents together who have maybe not held a pencil or a marker for the last 30 years, and suddenly they're asked to identify on a map what they like, what they dislike, or to present their vision. And so I think a lot is being done in Montreal, and a lot is being done in universities to try and find new ways to go forward. If we were going to ask, is Montreal a creative city in terms of citizen participation? I would say not yet. But on the other hand, I don't think that creativity is the most important thing here. I think if we do some basic things very well, we will already have a lot done. We have an OCPM, Office de Consultation Publique de Montréal, which is an excellent tool, has been functioning quite well, has done interesting work to bring public opinion to bear on decision-making. And so I think if we work on what we have and then hear what our academics and others are proposing from their research, consider ourselves to be doing a decent job. Alors, je voudrais terminer maintenant en proposant quelques pistes de recherche sur la base de ce que j'ai de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Un premier projet de recherche qu'on pourrait mener ici, au CRIEM, on ne va pas dire au CRIM, c'est simplement d'essayer de voir ce que la participation du public a donné jusqu'à maintenant à Montréal. Est-ce que les comités ont fonctionné de manière efficace? Est-ce que les élus ont suivi les avis? Enfin, il ne s'agit pas de dire que suivre les avis, c'est toujours bien, mais est-ce que les avis ont fait une différence dans les décisions? Quels sont les plans qui ont été vraiment améliorés par la participation du public? Avons-nous des exemples de participation vraiment productive, même créative à la rigueur? Deuxième projet de recherche, je pense, c'est sur l'identité des personnes qui sont impliquées dans la participation du public. Je pense que ça, c'est mon hypothèse. Alors, c'est vrai que quand on démarre une recherche, on a tendance à avoir des hypothèses. Mon hypothèse, c'est que, en fin de compte, ce sont certaines organisations, les tables de concertation, le Centre d'écologie urbaine, Héritage Montréal, qui sont les poids lourds de la participation citoyenne à Montréal, et que le public en général a tendance à être un peu plus passif. Mais bon, ce n'est qu'une hypothèse. Je serais très content de voir qu'elle n'est pas démontrée. Mais je pense qu'il serait intéressant de voir qui le fait, qui peut le faire plus et mieux. Troisièmement, évidemment, de la recherche comparée. Comment est-ce que Montréal se compare à d'autres villes? J'ai dit que Montréal ne me semblait pas très créative, mais peut-être que comparée à d'autres villes, elle est un cas de figure assez intéressant. C'est sûr qu'il y a des choses très intéressantes qui se passent autre part. On devrait essayer de voir ce qu'on peut apprendre de Londres ou de n'importe quelle autre ville. Quatrième projet de recherche qui traite du thème justement de notre conférence, c'est de notre symposium. Quel est le lien entre participation du public et créativité? L'hypothèse étant évidemment que plus il y a de gens, plus les solutions pourraient être créatives. Comme une chorale, plus vous avez de voix, plus vous aurez de mélodies qui peuvent être chantées en même temps, plus vous aurez d'harmonies intéressantes. Alors, est-ce que c'est vrai que, comme le dit Jane Jacobs, « Everyone has his own plan », si on fait venir « everyone », est-ce qu'on a beaucoup de petits plans très intéressants, créatifs, qui se mettent ensemble? Ou est-ce que nos processus de participation au public ont tendance justement à neutraliser ce qui est extrême, ce qui est créatif, ce qui est différent, par la loi du grand nombre, par la manière dont on mène ces échanges, etc. Je pense que ça serait assez intéressant. Finalement, je pense que pour revenir à mon point de départ et à M. Lisée, je pense qu'on pourrait faire de la recherche sur le lien entre démocratie participative et capital politique d'une ville. Qui est un maire fort? Comment donnerons-nous un maire fort à Montréal qui pourra avoir une certaine présence au niveau du Québec et même au niveau du Canada? Est-ce qu'un maire fort, c'est un maire autocrate? Qui décide de tout et tout passe par moi, comme Jean Drapeau, c'est vrai que c'était un maire fort. Mais est-ce que dans notre situation actuelle, face à Québec, justement avec les enjeux qu'on a mentionnés, ce ne serait pas un maire qui met l'accent sur la démocratie participative, qui aura beaucoup plus de capital politique et qui pourra justement mieux comprendre sa ville, mieux faire résonner ce qu'elle a en elle et aussi mieux traduire ses besoins à l'égard de tierces personnes. Alors, je terminerai là-dessus et je vous remercie beaucoup.
Oui, bonjour. Claude Faribault du Living Lab de Montréal. Chat dans la gorge, je vais rester debout, je crois. Raphaël, tu parles de plusieurs projets de recherche. Je sais qu'on est dans un colloque interdisciplinaire. J'ai envie de te demander, est-ce que tu entrevois la possibilité de faire des recherches participatives? J'entends par là, il n'y a pas d'ornithologue dans la salle, mais quand on veut savoir où nichent les oiseaux, on demande aux citoyens, parce qu'il n'y a pas assez d'ornithologues dans la ville ni dans la société, pour pouvoir repérer les oiseaux. Alors, on fait de la recherche participative. On demande aux gens d'aller étudier leur quartier pour savoir ce qu'ils voient autour d'eux. Et maintenant, l'autre volet de ma question, c'est sur le sondage que vous avez mené sur 1500 répondants. Pourquoi vous n'avez pas demandé à 1500 personnes d'aller faire des enquêtes sur le terrain pour savoir ce qu'ils pensent, plutôt que vous donner le rôle d'étudier l'opinion de 1500 personnes? C'est juste pour remettre un peu en question la théorie des sondages, qui est un peu bousculée ces temps-ci par Internet. Voilà, je vous relance la question à tous les deux.
Il y a deux choses à dire. C'est d'une part que vous êtes les représentants d'un milieu créatif sur la participation du public qui utilise les nouvelles technologies pour le faire. Et vous avez entièrement d'accord, j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais il est évident que les nouvelles technologies de l'information, de la communication sont des outils extrêmement importants dans le développement de la démocratie participative. Ça c'est sûr. Et je pense, quand je disais que de la recherche intéressante se fait dans les universités, c'est pas seulement dans les universités, mais c'est là-dessus qu'elle porte aussi. Et c'est sûr qu'on... ça me semble tellement évident que c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas mentionné.
Les relations entre l'université et ce genre de recherche est extrêmement importante.
Oui, c'est vrai. Vous avez raison.
S'il y a des résultats, et je pense à certains travaux que nous avons faits, comment sont-ils pris en compte?
Oui.
Comment sont-ils évalués? Parce qu'on nous demande constamment de mesurer la participation. Tu vois, alors qu'on est en train d'innover, et là on nous dit, mais comment vous pouvez prouver que cette participation a un impact? Ces questions-là sont légitimes, mais on est un petit peu à court, et pour pouvoir aller de l'avant, je pense qu'il y a une ouverture de l'université qui doit se faire. Vous le faites parce que là, maintenant, vous êtes interdisciplinaire, transdisciplinaire, mais je pense que la relation avec l'émergence de ces groupes est importante. Parce qu'il y a aussi l'écoute. Si, par exemple, plusieurs personnes participent, vous avez raison, est-ce que ça dilue? On se pose souvent cette question, la valeur de l'échantillon, mais peut-être qu'en utilisant certaines technologies, on peut écouter modéliser et comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre autrement.
Vous avez raison. Quand je disais qu'il faut d'abord bien faire ce qu'on fait déjà, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas utiliser de nouvelles technologies. Écoutez, pour parler de la relation entre l'université et la communauté, je pense que c'est un sujet qui nous tient à cœur aussi. Nous faisons, en tout cas à l'école d'urbanisme, mais dans d'autres départements, beaucoup de travail avec la communauté les outils à participer à la prise de décision dans une certaine mesure. Nous avons une alliance de recherche université-communauté que Lisa Bornstein a menée, qui se termine maintenant. Qui, je pense, a impliqué la communauté dans la recherche et qui lui a donné une voix aussi dans la prise de décision sur certains projets. Alors, je suis d'accord. Vous voulez rajouter ?
Mon nom est José Plamondon. Je collabore de temps en temps aussi avec le Living Lab de Montréal. J'analyse les données sociales. Je fais du social listening avec des technologies qui ne sont pas si nouvelles que ça, mais qui s'améliorent énormément. Et il y a une chose qui me frappe, c'est que pourquoi, je me demande comment se fait-il que les marques ont rapidement compris comment utiliser les médias sociaux pour entretenir des conversations avec les gens, leur répondre. Répondre rapidement, alors que nous, avec les organisations municipales et gouvernementales, il faut passer à travers un processus qui est très long, pour lequel il faut avoir énormément de temps, pas travailler surtout, parce qu'il faut avoir beaucoup de temps, et c'est très long pour soumettre, par exemple, une idée. L'office de consultation, je comprends, mais quand je regarde ça et quand je regarde des gens beaucoup plus jeunes que moi, qui ont l'habitude d'interagir sur Twitter, se plaindre ou même féliciter une marque ou même n'importe qui, une personnalité, d'avoir une réponse, et qu'on leur dit, si tu veux proposer une idée dans ton quartier, ben passe par le processus de consultation. Ils me disent, hey, quand même, comment un an là, j'ai 15 secondes ici. Mais et donc je me demande, mais pourquoi ça prend autant de temps? Parce que l'écoute, c'est ça qui fait que les gens, si on ne les écoute pas, et je le vois parce que je monitore des conversations en ce moment à sujet de la charte ou des élections municipales, il n'y en a pas d'écoute. Il y a très, très peu de conversations entre les gens qui sont en pouvoir ou qui ont des connaissances, qui savent, qui comprennent la situation, mais il y a très peu d'échanges à ce niveau-là avec les citoyens.
Je veux juste comprendre pourquoi c'est comme ça.
Moi, je pense que la moyenne des employés à la ville est de 45 ans, 50 ans. Et la moyenne... Oui, oui, mais d'accord, mais... Oui, mais... Il faut... C'est pas une raison. Bon. Écoutez, il y a... Je pense que c'est vrai que si on s'attend à des communications instantanées, écoutez, je n'ai pas de réponse à votre question. Il y a peut-être une question de moyens aussi. Hein. Écoutez, si vous me dites, on a du mal déjà à recevoir les services qu'on veut, mais il faudrait qu'une partie de l'effectif municipal soit allouée à cette question de Twitter, Facebook et de réponses et de trucs d'interaction quotidienne. Hein? Non. Mais vous avez raison. Écoutez, on a une chose intéressante maintenant à Montréal, c'est le droit d'initiative. Il y a une initiative sur l'agriculture urbaine. Oui. Moi, je propose que peut-être qu'on prenne une initiative sur...
Les conversations
ou les nouvelles technologies, l'accès à l'information. La ville commence à mettre ses données en ligne, c'est déjà une chose.
Mais ça c'est un autre sujet, là, parce que la qualité des données qui sont en ligne, souvent, c'est une belle façon de faire taire les gens. Ce que je trouve dangereux, c'est dans ce manque d'écoute, il y a un désengagement. Il y a un désintéressement et il y a un désengagement des électeurs de plus en plus jeunes, mais aussi plus en plus âgés. Je rencontre des gens qui sont plus âgés que moi, qui votaient et qui ont cessé de voter. Ça, c'est dangereux parce qu'on dirait que les gens ne veulent plus de ce mode d'échange-là et ils sont prêts à autre chose. Quoi? Mais pourquoi on ne met pas d'efforts en fois? C'est la question que je me pose et c'est peut-être un sujet d'intérêt pour ce groupe.
Sûrement.
J'avais juste deux petites questions, en fait. La première, c'est vous parlez de participation éventuellement politique. Je pense que c'est le sous-texte. Mais vous ne le dites pas chaque fois. Et donc, dans participation, il y a plein de choses. Hein. Il y a aller à des événements, il y a créer une OBNL, il y a, je ne sais pas, être ici, c'est une forme de participation. Et en fait, est-ce que dans votre conception de la participation politique, est-ce qu'il y a un format, en fait, puis ça rejoint peut-être un peu la question de madame... De José, c'est-à-dire, est-ce que c'est l'office de consultation publique qui demande Everybody's got a plan? Est-ce qu'il faut absolument avoir le blueprint là, puis le sortir sur la ou est-ce que et donc est-ce qu'il y a d'autres formes de participation et en fait est-ce que être ici aujourd'hui c'est pas une forme justement de participation politique quand on parle de politique depuis ce matin? Deuxième question rapidement, est-ce que vous envisagez aussi cette question-là comme en fait, vous semblez être un enthousiaste de la participation. Je partage votre avis sur cette question. Mais est-ce que vous ne le voyez pas dans une forme de cycle, en fait? C'est-à-dire que, ben, par exemple, on constate, puis je sais pas si ça a été, s'il y a des statistiques à l'appui, mais il semble y avoir un certain engouement vers les élections municipales en ce moment, et je devine qu'on pourrait prouver que la participation est supérieure, mais forcément, c'est des phénomènes qui vont et viennent, les gens s'en foutent, puis ensuite sont préoccupés. Donc, in striving for more participation, est-ce qu'on va pas finalement arriver à quelque chose, puis là, ensuite, ça va un peu retomber, puis est-ce que c'est pas un peu 100 fois sur le métier, on remet...
Bah, écoutez, je sais pas. Moi, je pense que toutes les formes sont bonnes à prendre. Moi, je ne suis pas... Je pense que c'est vrai, participer à un colloque où ça fait partie de la prise d'information, et donc... Ça nous prépare à participer. En général, quand je dis participation, c'est la soumission, la contribution d'idées, d'avis, d'informations à la prise de décision collective sur des enjeux collectifs. Ce que nous faisons chez nous, c'est une chose, mais ce que nous faisons collectivement, c'en est une autre. Et il y a tous les jours des décisions importantes qui se prennent sur l'avenir de la ville. Il y a des choses qui se font, il y a des projets qui se lancent, il y a des projets privés, mais il y a des projets publics aussi. Et j'appelle participation toute contribution qu'un individu ou un groupe fait à l'élaboration d'un programme, d'une politique, d'un projet, etc. Vous me dites, je suis un enthousiaste de la participation. Je suis sans doute pas le plus radical à ce sujet. Moi, je crois beaucoup à la démocratie représentative aussi. J'ai très peur, en fait, des effets du tout à la participation aussi. J'ai peur que ça pourrait, à la rigueur, déresponsabiliser les élus. Et j'ai peur surtout aussi que ça puisse affaiblir d'une certaine manière des revendications à plus haut niveau de mouvements sociaux. Par exemple, la question de l'équité. Moi, je ne sais pas si la question de l'équité sera vraiment abordée de manière intéressante simplement par une participation du public. Je pense qu'un certain leadership politique est nécessaire. C'est vrai qu'il y a une pression du bas qui doit se faire. Et je pense qu'une des choses qui nous manque à Montréal, c'est peut-être la qualité des élus qu'il nous faut pour aussi être visionnaire d'une certaine manière et pour contribuer à la formation politique. Je pense qu'on ne peut pas tout attendre du public. Je pense qu'il y a lieu d'attendre des professionnels, des experts et des élus qu'ils nous fassent des propositions aussi.
Bonjour, je vais juste peut-être revenir aussi sur l'aspect, mon nom est Jimmy Paquette-Cormier, puis je travaille à l'Office de consultation publique pour les nouvelles technologies. Puis je vous invite justement à liker la page ou aimer la page Facebook de l'Office et le Twitter aussi. Puis pendant le plan de développement de Montréal, on s'est beaucoup servi de ces deux médiums-là pour diffuser chacune de nos rencontres, puis aussi mettre des questions sur Internet, mais c'est vraiment quelque chose qui peut faire peur en termes de ce qu'on en ressort. Puis par exemple, sur « Que voulez-vous pour Montréal dans 20 ans » sur Facebook, il y a eu plus de 280 commentaires sur la charte en tant que telle. Donc c'est un peu difficile à voir pour les commissaires comment rapatrier toute cette information-là pour aider la prise de décision. Mais moi aujourd'hui, suite à votre présentation, ce qui m'interroge par rapport à la créativité, surtout en termes de processus de consultation, j'aimerais ça vous entendre sur la distinction entre un processus formel, comme l'Office peut avoir, qui est reconnu et toujours à peu près le même, par rapport à des processus utilisés un peu partout dans le monde, qui sont plus créatifs ou qui justement mettent des charrettes à différentes étapes ou qui vont plus dans des ateliers de participation où peut-être le citoyen se retrouve moins dans le processus général, mais qui peut avoir une voix au point de vue créatif ou d'une autre envergure qu'une proposition, un plan ou une réaction face à un projet entretenu.
Je ne sais pas très bien comment répondre à votre question. Vous avez raison, il y a beaucoup de choses moins formelles qui se passent, moins institutionnalisées. Vous savez, par exemple, on parle d'urbanisme tactique au lieu de parler d'urbanisme stratégique, de petites interventions qui se font au niveau local, des projets pilotes, des choses intéressantes. Je pense que si des citoyens s'impliquent dans ces choses-là, ça les arrime un peu à toute la question du développement urbain, etc. Mais ce que je propose, c'est justement qu'on fasse de la recherche là-dessus pour savoir ce qui est créatif, ce qui se fait autre part, formellement, de manière formelle, de manière informelle. Je pense que Annick...
Merci. Alors, je voulais peut-être ajouter un petit complément à la liste de projets que tu nous as donné. Il me semble qu'on ne fait pas grand-chose pour essayer d'explorer ce qui se passe entre ces organismes ou ces citoyens qui participent et puis la machine administrative dont Andrew Sancton nous a parlé tout à l'heure. Et moi, j'ai une hypothèse qui est peut-être un peu pessimiste pour le court terme. C'est que je crois que depuis les fusions des fusions, on est entré dans une ère de crispation bureaucratique. Les fonctionnaires à l'intérieur des appareils municipaux sont extrêmement craintifs en ce qui concerne toute communication d'informations, tout dialogue, etc. Il y a une culture hiérarchique très très forte et c'est évident que les scandales de corruption vont rendre la chose encore plus difficile. Autrement dit, la participation n'est pas vraiment possible quand il n'y a pas une culture de la confiance de l'autre côté. Et il me semble que pour le moment, il n'y a pas cette culture de confiance, étant donné le contexte que nous traversons. Et moi, ça m'inquiète un peu.
Ouais. Merci.
I think you offered a very measured and polite response to the issue of not-so-new technologies today and the use of participation. And I think we're in the very, very early days of a very large transition. These tools and the desire for people to engage differently will not go away. The notion of expertise is still incredibly important, but it's only part of the story. And there are very many variations of, we're a little bit worried because the barbarians are at the gates. And all I would suggest is that in the early days of a transition, it's very messy. We don't quite know what we're doing. We don't know where we're going. But something different will emerge. And if we provide the opportunities to experiment, to practice, to rely on the good judgment of those people who want to participate and engage, and invite and support that participation, we will come to a greater effectiveness of transparency, where the barbarians may very well turn into effective citizens.
Thank you.
I think on that note, we can end this session. Merci à Raphaël. Merci à vous pour votre participation passionnée. Je vous invite maintenant à remercier chaleureusement nos trois invités. Merci.
Good to see you again.
Thank you.
You pose